C'est l'heure des mythes et complots avec Christian Page.
Salut Bernard.
Des signaux radio extraterrestres.
Oui, tu sais que cette idée de chercher des signaux radio extraterrestres, c'est une activité qui a été lancée au début des années 60 et qui a pris en fait plusieurs noms, mais on a un nom parapluie qui s'appelle le nom SETI. Probablement que plusieurs de nos auditeurs savent de quoi on parle en faisant référence au film Contact avec Jodie Foster. Donc, c'est cette idée de tourner des radiotélescopes vers l'espace.
J'avais vu ça, moi. J'ai bien aimé ce film-là.
Et oui, c'était pas mal, oui. Vraiment, c'était bien, basé sur un roman de Carl Sagan. Ah. Et donc, on tourne ces grandes antennes dans l'espoir de capter un signal extraterrestre. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas obtenu beaucoup de résultats. Il y a 2 ans, parce que cette initiative est en grande partie financée par la NASA, mais il y a également des deniers, disons, privés qui sont mis là-dedans. Et il y a 2 ans, l'un d'entre eux, un milliardaire russe, Yuri Milner, en compagnie de Stephen Hawking, ont décidé, en fait, c'est surtout Milner qui est l'investisseur, a décidé de mettre 100 millions de dollars, moyennant 10 millions de dollars par année, pour donner un petit coup de main à cette initiative pour écouter des signaux radio provenant peut-être de d'autres étoiles.
Pour financer cette espèce de site avec toutes les coupoles, là?
Il y en a plusieurs. En fait, c'est celui-là, celui qu'on voit dans le film de Contact, c'est un des sites où on utilise des radiotélescopes pour faire de l'écoute de l'espace. Mais il y en a quand même plusieurs à travers le monde. Donc, on tourne ces radiotélescopes, on écoute les étoiles et on est en quête de signaux. Et là, voilà que de ces signaux, on en a capté 15. Il y a quand même 2 semaines, et ces 15 signaux, crois-le ou non, provenaient d'une zone située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc, tu te rends compte, 3 milliards d'années-lumière de la Terre. En fait, ils ont été captés, ces 15 signaux, pendant 5 heures, le 26 août dernier. Ils provenaient d'une région de l'espace qui s'appelle FRB 121102. C'est très exotique comme nom.
Oui.
Et se situe dans une galaxie naine au cœur de la constellation du Cocher. Donc là, il faut s'entendre, hein, ce sont des sortes d'explosions électromagnétiques qu'on a entendues qui proviennent de cette région à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Ça veut donc dire, Bernard, si tu fais le calcul, la lumière se déplace à 300 000 km à la seconde. Donc, on a 300 000 km multiplié par 60 pour faire une minute, multiplié ensuite par 60 pour faire une heure, et ensuite multiplié par 24 pour faire une journée, multiplié par 360, ça donne une année-lumière. Et là, on en a 3 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que ce message est parti de son endroit il y a 3 milliards d'années avant que nous, on le capte. C'est faramineux comme distance dans l'espace. Alors, si tu te rends compte que la civilisation, supposant, parce qu'on est loin de faire...
Ils sont peut-être toutes morts, celui
ouais,
qui... celui,
on a capté ces 15 signaux. Donc, pendant 5 heures, on avait le radiotélescope tourné vers cette région de l'espace et on a capté ces 15 explosions électromagnétiques qui semblent être une signature artificielle. Donc, on spécule, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une civilisation extraterrestre? Mais s'il s'agit de signaux envoyés par une civilisation extraterrestre, ces signaux ont été envoyés il y a 3 milliards d'années. Alors, tu comprends, si tu regardes la Terre, elle a 4 milliards et demi d'années et on présume que la vie sur la Terre est apparue il y a à peu près 1 milliard 500 millions d'années. Ça veut donc dire que ces signaux seraient partis de leur étoile avant même que la vie n'apparaisse sur la Terre. Ça veut donc dire que si ça venait d'une civilisation extraterrestre, il y a de fortes chances que cette civilisation n'existe plus aujourd'hui.
Ben, ça nous avance beaucoup, ça.
Effectivement, on n'entreprendra pas une communication téléphonique avec eux parce qu'ils sont peut-être disparus depuis des millions, sinon des milliards d'années. Mais au moins, si éventuellement l'analyse de ces signaux venait à confirmer qu'il s'agit bel et bien de signaux radio d'origine extraterrestre, même si la civilisation qui a lancé le signal n'existe plus, ça répondrait à la grande question, sommes-nous seuls? Alors là, on saurait que nous ne sommes pas seuls, ou à tout le moins que nous n'étions pas seuls.
Oui, exact.
Voilà. Donc, actuellement, les scientifiques se penchent là-dessus, mais il faut quand même dire que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a des chercheurs qui croient qu'il pourrait s'agir de curiosité dans l'espace, comme une sorte d'étoile pulsar ou un trou noir. Donc, un phénomène naturel qui aurait un comportement particulier et qui serait à l'origine de ces explosions électromagnétiques.
OK. Parlant d'espace.
Oui.
l'armée de l'air américaine qui a procédé au lancement du vaisseau X-37B,
oui.
Qui est une mini navette spatiale,
ouais,
c'est ça?
C'est amusant parce que alors qu'on parle de cette tempête, cette tornade, tempête tropicale Irma, on ne sait pas trop quelle forme elle va prendre, mais tu vois, la NASA a procédé jeudi, donc hier, au lancement du X-37B. Bon, qu'est-ce que c'est que ce X-37B? C'est assez mystérieux. Ça ressemble
on à... On ne l'a pas vu d'ailleurs, il n'y avait pas de photos. Hein?
Ouais, il y a quelques photos qui circulent.
Mais de très loin.
De très loin. On voyait le lanceur, ouais, en fait, qui était une fusée. D'ailleurs, pour une des premières fois, on a utilisé un lanceur privé
de Musk.
D'Elon Musk. Ouais. Et on a donc
le propriétaire des voitures
Tesla.
Voilà, exact.
Donc, on lance, c'est une fusée Falcon 9 qui a lancé le vaisseau en question. Le vaisseau, lui, lorsqu'il est en orbite, il a à peu près la taille d'un petit avion. Il ressemble étrangement à une navette spatiale et il est sans pilote. Donc, on sait que ce vaisseau a été développé à la fois par la NASA et par l'US Air Force. Il en est à sa quatrième ou cinquième mission. La dernière mission, il avait été plus d'une année dans l'espace. Et là, évidemment, on se pose la question, à quoi sert ce vaisseau?
Ouais.
D'après ce qu'en dit l'US Air Force, il s'agit d'un moyen de tester de nouvelles technologies pour l'espace. Mais c'est loin de faire l'unanimité. À quoi peut bien servir ce vaisseau? On sait que lorsqu'il est en orbite, il se place sur une orbite assez basse. Les astronomes amateurs peuvent suivre sa trajectoire.
Ah, oui.
Et on se demande, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on parle évidemment de missions d'espionnage possibles, qui seraient au-delà de la version officielle, donc de l'espionnage. Ou encore, crois-le ou non, dans les théories du complot, il y a des gens qui croient que l'armée serait capable de contrôler les climats. En fait, ils auraient développé toutes sortes de technologies.
OK. Mais là, il serait temps qu'ils le contrôlent.
Ben, c'est sûr que là, on est dans la théorie du complot.
Non,
hein?
Mais on aurait besoin qu'ils contrôlent le climat. Là,
ouais, ils appellent ça, eux, de la géo-ingénierie. Donc, on croit qu'il y a... En fait, il y a une quinzaine d'années à peu près, les Américains avaient développé un projet qui s'appelait l'acronyme était ARP. Ça se situait en Alaska. On étudiait le déplacement des hautes fréquences dans l'atmosphère. Et là, certains disaient que tout ça était une sorte de subterfuge parce que l'idée était en fait de développer une arme extraordinaire pour contrôler les climats. Évidemment, tout ça nous semble un petit peu ridicule, mais c'est vrai que l'US Air Force ou l'armée américaine s'est déjà penchée sur cette question-là. Il y a quelques années, ils avaient publié un document disant « Le contrôle du climat pour 2025 ». Donc, cette idée de développer des technologies nouvelles pour contrôler les climats, disons, c'est sur la table de travail de l'armée américaine.
Il n'y avait pas eu à un moment donné une histoire, puis là, franchement, si je dis n'importe quoi, je t'en prie, corrige-moi. Mais tu sais, ils utilisaient, je pense, de la poussière d'argent. Là, pour...
Voilà.
Hein? J'ai pas rêvé ça, non?
Non, t'as pas rêvé. Donc, quand on pense, parce qu'on voit les théoriciens du complot mélangent souvent plein de choses. Le fait que les autorités aient déjà utilisé des mécanismes pour contrôler le climat existe. Notamment en larguant de l'iodure d'argent dans le ciel. On appelle ça faire de l'ensemencement de nuages. On lance de l'iodure d'argent dans le ciel, ce qui force la condensation à se former en gouttelettes d'eau et à pleuvoir. Mm-hmm. Donc, sur des régions très arides, on peut faire cet ensemencement de nuages pour forcer de la pluie. Mais entre cette technologie et celle de véritablement contrôler les climats à grande échelle, évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors, est-ce que l'armée américaine est en train de développer de nouvelles technologies? Tu sais que dans la cour des théoriciens du complot, il n'en faut pas beaucoup pour imaginer les pires scénarios.
Mais cela étant dit, la US Air Force, s'ils utilisaient la mini-navette pour faire de l'espionnage, ils ne nous le diraient pas.
Non, absolument pas.
Hein? Le fait qu'ils ne nous le disent pas, ça peut aussi bien vouloir dire qu'ils n'en font pas qui en font.
Voilà. Donc, et c'est sûr que lorsqu'il s'agit de secret défense, le commun des mortels n'a pas accès à ces dossiers-là. Donc, que fait l'armée avec son mystérieux petit vaisseau, son X-37B? Alors, ou de l'espionnage, ou on met au point de nouvelles technologies, mais quelle que soit l'utilisation qu'on en fait, c'est sûr qu'elles serviront à plus ou moins longue échéance les desseins de l'armée de l'air américaine.
Mais ils le mettent en orbite autour de la Terre,
oui.
Il est sans pilote, et ils le ramènent par la suite?
Oui,
vraiment comme... Est-ce qu'il le ramène comme la navette spatiale sur Andrews?
Absolument. Donc, il est lancé depuis la base d'Andrews ou la base de Vandenberg. Les deux se trouvent en Floride. On le lance depuis la Floride. L'appareil peut rester de longs mois en orbite et il est ramené au sol comme il s'agirait d'un avion téléguidé.
Et la raison, évidemment, pour laquelle il est sans pilote, c'est qu'après ce qui s'est passé, les quelques catastrophes, Évidemment, ben, en fait, si jamais il y avait un pépin, tu perds l'appareil, mais il n'y a pas de vie humaine.
On ne perd pas de vie humaine. Puis ensuite, et bien sûr, ça permet de très, très longues missions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de la station orbitale, on sait qu'il y a des astronautes pratiquement en permanence, mais il faut ravitailler la station orbitale. Alors que ce petit vaisseau, il est à peu près autonome, le X-37B. Une fois qu'il est en orbite, voilà, on n'a plus à s'en occuper. Et qui plus est, on nous dit qu'il utilise, et là, ça reste à confirmer, mais il utiliserait comme moyen de propulsion un système qu'on appelle un M-Drive. Et ce système serait en fait propulsé par des micro-ondes. Et sans en connaître vraiment les détails, on nous dit que ça défierait littéralement les lois de la gravité conçues par Newton. Oh ça irait boy. À l'encontre des lois de la physique. Donc, l'appareil est très mystérieux. Ce qui le propulse est également très mystérieux. Et sa mission reste ultra top secrète.
Ouais, j'ai hâte de voir pendant combien de temps ça va être le cas. Il y a Ghislaine qui nous écrit pendant qu'on se parle, Christian qui nous dit, drôle de coïncidence, la bande-annonce du film Geostorm sort aujourd'hui. Okay. Geostorm? Alors, je connaissais pas, mais visiblement par le nom, là, c'est l'histoire d'une catastrophe naturelle. Donc, c'est intéressant. On va s'arrêter parce que moi, je veux vraiment qu'on se garde du temps pour retourner sur une base américaine où il y aurait eu, quoi, des extraterrestres?
Eh oui!
C'est ça, hein?
Tout est possible.
Aïe. Mesdames et messieurs, ne manquez pas la suite de Mythes et complots avec Christian Page dans un instant. Alors, de retour avec Christian Page, Mythes et complots. Alors, des extraterrestres, pas sur une base, sous
la base.
Ah!
Est-ce qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'intraterrestres, comme l'aurait dit Richard Glenn il y a quelques années?
Des intraterrestres.
Tu vois, là, ici, chaque année, il y a des dizaines de livres qui sont publiés sur les ovnis. Certains font plus parler d'eux que d'autres, et c'est probablement le cas du livre de Raymond Simonsky. Ce type Simonsky vient de publier un ouvrage qui s'intitule Fifty Shades of Grey, en s'inspirant bien sûr du film et du roman
de gris,
en faisant référence aux extraterrestres qu'on appelle de Little Grey, hein, les petits gris.
Ah, je pensais que c'était les petits verts.
Ah non, ils sont gris. Depuis quelques, faudrait que tu te mettes au diapason. Bernard, ils sont devenus gris depuis quelques années. Donc, ce type, ce Raymond Simonsky, qui se présente comme un ingénieur, dit, il vient de publier dans son ouvrage, et il se présente comme un ingénieur, il dit avoir travaillé pendant 40 ans sur la base militaire de Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio. Donc, une base militaire très importante. Et durant les années 50 et 60, alors que l'armée de l'air américaine tenait ses fameuses commissions d'enquête sur les ovnis sous le nom de Projet Sign, Projet Grudge, Projet Blue Book, donc trois enquêtes gouvernementale sur les ovnis. Le siège de ces enquêtes était d'ailleurs à la base de Wright-Patterson. Alors là, ce type-là, il dit, lorsque j'ai commencé à travailler à la base, il y a 40 ans, j'ai rencontré un dénommé Hall. Il nous donne pas son... Hall, on suppose un raccourci de Alan ou quelque chose comme ça. Il dit, j'ai rencontré ce Hall, un pseudonyme, bien sûr, et il dit, ce type m'a fait visiter des souterrains et des bunkers dans lesquels, dit-il, on avait entreposé pendant un moment des morceaux ou un engin extraterrestre ainsi que des corps d'extraterrestres.
OK, laisse-moi deviner. Malheureusement, il n'y a aucune photo de ces installations ou de ces extraterrestres.
Mais comment tu fais pour deviner ça, Bernard?
Aïe, aïe!
Tu as un don de double vue?
Absolument!
Alors, encore une fois, ce monsieur Simonsky nous dit, voilà, j'ai rencontré ce Hall, il me fait visiter ces installations, et là, il me dit qu'il y avait autrefois des engins extraterrestres, des cadavres d'extraterrestres, et là, il ramène sur le tapis l'histoire de Roswell, cette histoire d'une soucoupe volante qui se serait écrasée dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique en 1947 et que l'armée aurait récupéré à la fois l'engin et les cadavres d'extraterrestres.
Ah, OK. Donc parce qu'en Ohio, on est un petit peu loin de Roswell.
Ouais. Donc, on a comme ce grand mythe. En fait, je te dirais que le Saint Graal de toutes les histoires d'OVNI pour les amateurs d'OVNI, c'est cette histoire de Roswell. Donc, un engin se serait écrasé début juillet 1947. L'armée américaine aurait rapidement fait encercler l'endroit, aurait récupéré la machine volante et les cadavres des extraterrestres.
Et c'est donc dans cette base de l'Ohio qu'ils auraient été... frigorifié.
Frigorifié, amené. On avait supposé que c'était peut-être la mystérieuse base de la zone 51 dont on parle souvent, qui est située dans le désert du Nevada. Mais voilà que selon les révélations de ce monsieur Szymanski, ce serait finalement la base de Wright Patterson à Dayton dans l'Ohio.
Et ça change tout.
Et comme tu le mentionnes si bien, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas non plus de référence, pas de nom, bref, rien qui soit vérifiable pour déterminer si oui ou non cette histoire est plus qu'une simple fiction.
On s'entend-tu, Christian, que tu dis il y a beaucoup de livres qui sont publiés sur les extraterrestres et tout le reste, puis tu dis il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, mais mettons que Szymanski là.
Ouais.
D'abord, est-ce qu'on est capable de vérifier qu'il a bel et bien travaillé sur cette base militaire? Y a-t-il comme un minimum de crédibilité à accorder à ce monsieur-là?
En fait, on sait qu'il a travaillé sur... Il a été militaire et il a été, à un moment donné, cantonné sur la base de Wright Patterson à Dayton, dans l'Ohio. C'est la seule chose que l'on sait pour le moment.
Okay.
Donc, tout le reste, qu'il était ingénieur, évidemment, il évoque des programmes ultra top secrets, donc que son nom ne peut pas être révélé.
Mais il est encore vivant, lui.
Il est encore vivant. Et tu sais, ce que je trouve étrange dans cette histoire-là, c'est qu'elle me rappelle une autre histoire-là. Là, ce qui est ciblé dans cette histoire, ce qui est ciblé, c'est la base de Wright Patterson. Et à la fin des années 80, il y avait un autre bonhomme un peu qui était apparu comme ça, sorti de nulle part, un type qui s'appelait Robert Lazar. Et ce type de Robert Lazar, lui, il disait « J'ai travaillé sur la base de la zone 51 dans le désert du Nevada et en fait, on y faisait de la rétro-ingénierie. » Et là, il raconte une histoire assez semblable. On aurait récupéré une soucoupe volante et des extraterrestres. Et moi, mon travail était de prendre cette soucoupe volante, de la déconstruire pour voir comment elle fonctionnait, pour pouvoir appliquer cette technologie sur nos propres avions américains.
Okay.
Et dès qu'on avait commencé un peu à fouiller, on s'était aperçu que ce Bob Lazar, en fait, était un fiefé menteur. D'abord, il n'appartenait à aucun ordre d'ingénieur, de quoi que ce soit. Il était incapable de se rappeler qui étaient ses professeurs à l'université, à quelle université il avait été. Et là, évidemment, dès qu'on commençait à fouiller, comme on ne retrouvait rien. Bien sûr, il accusait les autorités d'avoir comploté, d'avoir fait disparaître son passé pour pas que l'on puisse remonter à la source.
Oui.
Donc, c'est toujours un peu des histoires un peu douteuses, nébuleuses,
abracadabrantes.
Ouais. Et pourtant, dans le milieu des ovnis, il y a encore des gens aujourd'hui qui croient aux fables de ce Robert Lazar, même si depuis longtemps, on sait que tout ce qu'il avait raconté était absolument faux. La seule chose qu'on n'a jamais réussi à savoir à propos de Bob Lazar, c'est qu'on avait trouvé son nom dans une sorte de bottin téléphonique sur la base de Los Alamos, qui était une base militaire américaine. Mais dans le bottin téléphonique en question, on voit son nom, un numéro de poste, mais on ignore si c'était le gardien du stationnement ou si c'était l'homme qui passait la mop certains soirs. Donc, on pouvait absolument rien dire de ça. Et à partir de là, on a capitalisé sur cette histoire.
Ben, ce que j'allais dire, c'est que il y en a qui écrivent des livres comme ça pour faire un coup d'argent.
Ouais, absolument.
Puis la difficulté, j'imagine, pour un gars comme toi, c'est de départager. Pas nécessairement est-ce que l'histoire est vraie ou pas, mais est-ce que la personne qui la raconte a la crédibilité pour qu'on s'y intéresse.
Et c'est vrai que c'est pas évident et c'est pas toujours le cas. Parfois, même si des gens semblent crédibles, je vais te raconter une petite anecdote assez rapide. Il y a un type qui est un physicien nucléaire, donc pas n'importe quoi, un physicien nucléaire, qui s'est intéressé à la question des ovnis depuis une cinquantaine d'années, qui s'appelle Stanton Friedman. Il a publié plusieurs ouvrages. Et évidemment, il joue souvent sur cette crédibilité « je suis un physicien nucléaire ».
Déjà, tu dis ça, moi, j'ai tendance à écouter.
Et le bonhomme en question croit aux histoires d'extraterrestres, aux ovnis, donc il est convaincu de ça. Or, il y a quelques années, il a publié un livre sur qui s'intitulait « Crash à Corona », parce que tu comprends, la ville... Il y avait déjà eu un livre qui avait été publié sur « Crash à Roswell ». Comme l'incident dont on parle depuis tantôt se serait produit dans le désert entre la ville de Corona et de Roswell, ben comme il y avait déjà un livre qui s'intitulait « Crash à Roswell », lui a décidé de publier « Crash à Corona ».
Okay.
Et dans son ouvrage, tout son livre repose sur le témoignage d'un type qui s'appelle Gerald Anderson, qui lui dit avoir été un des témoins oculaires de cet événement. Et au moment où le livre allait sous presse, Gerald Anderson a avoué qu'il avait tout inventé. Alors, est-ce que tu crois que ce Stanton Friedman a appelé son éditeur pour dire « Oh là, ne publiez pas cet ouvrage, c'est basé sur un mensonge » Pas du tout. L'ouvrage a été publié. Stanton Friedman a entrepris de faire des campagnes de promotion pour l'ouvrage, des conférences pour présenter tout ça, alors qu'il savait, donc depuis plusieurs mois, que tout le livre était basé sur un témoignage où le témoin s'était lui-même récusé en avouant que tout ça était faux. Hmm.
Parlons en quelques minutes de ce... C'est quoi cette histoire-là en Écosse,
oui,
à Glasgow?
Oui, tu vois, quand on parle d'OVNI, on reste dans le thème. C'est, l'histoire vient d'être publiée par les journaux écossais, mais l'incident dont je te parle remonte au 26 mai dernier. Et on donne pas trop de détails, mais ce que l'on sait, c'est qu'on avait un avion Airbus, un A320, avec 60 passagers à bord. Et cet appareil était en approche de l'aéroport de Glasgow, donc à 3000 nautiques de la piste, lorsque les pilotes ont raconté qu'ils avaient été dépassés par une espèce de lumière orangée qui était passée au-dessus de l'avion. Alors, évidemment, ils ont informé la tour de contrôle qui n'a pas été en mesure d'identifier la nature de cet objet. Les autorités ont fait savoir que c'était pas la première fois qu'un incident semblable se produisait. En 2013, un autre avion, un autre porteur avait été dépassé par un objet inconnu, un objet volant non identifié, qui cette fois était passé sous le ventre de l'avion. Dans les deux cas, les appareils, les ovnis en question, n'apparaissaient pas sur les écrans radars et l'affaire est restée un peu inexpliquée, quoique les autorités ne rejettent pas la possibilité de drones qui auraient pu être utilisés de manière clandestine dans un secteur qui est réglementé. On n'a pas le droit de faire voler des drones près d'un aéroport.
Je pense qu'on va en avoir de plus en plus.
On va en avoir de plus en plus.
On s'entend parce que là, tu peux t'en acheter un drone.
Pour quelques centaines de dollars, on peut avoir un très bon drone. Et cette histoire me rappelle, Bernard, un incident qui s'est produit l'automne dernier. On avait un avion de la compagnie Porter qui a failli être télescopé par un objet volant inconnu au-dessus du lac Ontario alors qu'il était en approche de l'aéroport du centre de Toronto. L'avion en question de Porter volait à 50 km des côtes, à peu près 9000 pieds d'altitude. Et crois-le ou non, après une enquête du Bureau de la sécurité dans les transports, on a rejeté la possibilité du drone et on n'a pas trouvé d'explication à la présence de l'objet. Absolument.
Mais Christian Page, c'est toujours un plaisir. C'est divertissant. Ça nous change des histoires très sérieuses et un peu lourdes ces temps-ci avec toutes les affaires de climat. Là,
oui, absolument.
Donc, ça nous fait du bien juste avant la fin de semaine. Alors, on se reparle vendredi prochain, peut-être avant, parce que des fois, on ne sait jamais.
Hein? On ne sait jamais.
On ne sait jamais quand on aura la visite d'un petit bonhomme vert qui n'est plus un bonhomme vert, mais qui est un petit bonhomme gris maintenant.
Oui.
J'ai appris ça aujourd'hui. Christian Page, et je rappelle, normalement, ton émission du dimanche est diffusée de 14 à 15 heures avec Jeffrey Soubrani.
Oui.
Mais là, vous allez peut-être devoir laisser votre place à Irma parce que je dois vous informer, chers auditeurs, que le 98.5 va être en programmation spéciale. Spécial Irma, spécial José, qui est l'autre ouragan qui s'en vient pendant toute la fin de semaine, en particulier dimanche dès 7 heures. On va être en émission spéciale parce qu'on sait que la Floride va être frappée à ce moment-là. Paul Arcand, Isabelle Maréchal, Paul Oud vont se relayer pour cette spéciale climat. Donc, en fin de semaine, merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine.